un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
On les appelle des marchands de sommeil parce qu'ils louent très cher des logements dégradés et en tirent des profits substantiels. Il existe cependant plusieurs degrés d'habitat dégradé, détaillés par l'Agence départementale d'information sur le logement. Le mieux, si j'ose dire, c'est mal entretenu. Vient ensuite indigne, un des moins pires. Des logements qui sont mal adaptés et qui peuvent exposer les locataires à des risques. L'indécence, c'est l'avant-dernier stade du cynisme. Ça, c'est quand il y a des fils électriques dénudés ou des infiltrations d'eau. Pas de lumière ou bien des fenêtres qui ne donnent pas sur l'extérieur. Pas d'évier ou encore pas de séparation entre les toilettes et la cuisine. Et aussi quand les logements font moins de 9 mètres carrés. Ça, c'est indécent. La dernière étape, c'est insalubre. Et là, ce sont des murs qui menacent carrément de s'effondrer, ou des planchers, ou des balcons, des risques d'incendie à cause des équipements de gaz ou d'électricité, du plomb, et j'en passe. Et pourtant, à tous ces degrés de dégradation, il y a des appartements à louer. Ceux qui les possèdent sont donc ces marchands de sommeil. Tout de suite, on parle logement donc, et c'est le deuxième épisode de la série de Rémi Dybowski-Douat, « Un temps à coucher dehors ». Aujourd'hui, la loi du marché, notamment locative.
Alors, actuellement, je suis dans un appartement en location. Et je me trouve justement face à un problème. C'est qu'il y a énormément de baies vitrées. Donc, peu de murs. Donc, peu de possibilités d'y mettre des tableaux. Alors, moi, ma maison de rêve, elle serait dans le style des maisons de Le Corbusier. Très zen de l'extérieur, comme des cubes, mis les uns sur les autres. Beaucoup de murs pour pouvoir y mettre des tableaux.
Quelle est la superficie du vôtre d'appartement ?
120 mètres, ça me suffit. Je pense d'ailleurs prendre moins. Voilà. Parce qu'avant, j'habitais un 75 mètres carrés.
Et tout rentrait.
Voilà. Parce qu'il y avait plus de murs.
Ça fait combien d'années que vous collectionnez ?
40 ans. Mais j'ai un certain âge, cher monsieur.
Quand j'y pense, j'ai toujours eu une maison de rêve, moi aussi. Ça a commencé très tôt. À 6 ans, c'était une maison Phoenix. La maison Phoenix, c'était la référence de la maison accessible à tous, le symbole de ce qu'on a appelé plus tard, avec un peu de mépris, le rêve pavillonnaire. La possibilité pour la classe moyenne d'accéder à la propriété. Des maisons bien alignées, des murs droits, des pièces bien ordonnées et surtout des gravillons devant la porte. Pour moi, c'était le rêve. Mais dans ma famille, on n'en faisait pas partie de cette classe moyenne. On était plutôt pauvres. On vivait dans une ferme très modeste et on n'avait même pas de salle de bain. Il y avait des granges, des pièces à l'abandon, des escaliers biscornus et un peu dangereux. Bref, un immense terrain de jeu, mais pas vraiment la maison Phoenix de mes rêves. Et quand j'ai eu 8 ans, on a emménagé à Paris, dans un tout petit appartement.
C'est une manière d'habiter où l'espace à soi est extrêmement réduit, à son minimum vital. On plie, on déplie tout chez soi, parce que comme il n'y a pas beaucoup d'espace, tout est, voilà, la table est pliante, le lit est pliant, tout est à plier, déplier. Donc on est aussi un peu tout plié, déplié soi-même. Et je me suis fait cette réflexion, qui est peut-être complètement absurde et loufoque, mais que les gens des centres-villes avaient aussi une manière de tenir leur corps, de la même manière que l'espace est tenu et réduit. Il y a quelque chose qui ne peut pas prendre place, quoi.
En écoutant Lara, une intermittente du spectacle de 30 ans, je réalise à quel point les choses n'ont pas changé. Quand on n'est pas riche, on escamote, on module, on optimise, mais on a un peu de mal à déplier son corps. Mais Lara, elle aimait beaucoup son appartement. Et un jour, sa situation s'est compliquée.
Cette histoire, ce périple, commence le jour où je reçois un courrier qui me donne le congé de vente de l'appartement dans lequel je suis locataire, dans lequel je me suis sentie quand même assez bien pour y rester 6 ans, qui se trouve à côté des Buttes-Chaumont, rue Rébeval. Donc moi, j'étais bien contente et je m'estimais extrêmement chanceuse. Et généralement, c'est la première chose que je disais à tout le monde. J'ai un appartement à côté des Buttes-Chaumont que je paye 650 euros pour 19 mètres carrés. Et tout le monde trouvait ça formidable. Voilà. Et puis, j'ai eu ce courrier. Et je me suis dit, ok, dans 6 mois, faut que je déménage. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit facile. Mais alors, à ce point-là, je ne m'attendais pas à ça. À ce moment-là, je ne gagne même pas un SMIC. Je gagne 1100 euros par mois. Donc je sais très bien que mon dossier, ça ne va absolument pas passer. Je sais que mon unique solution, c'est de faire un faux dossier. Donc c'est monnaie courante, c'est vraiment hop, hop, hop. Donc le meilleur faux dossier, c'est étudiant, si on a un super garant. Voilà, je fais mon faux dossier et je me mets en recherche. Mais je sais une chose, c'est que aussi ma vie, elle a changé. Depuis ces 6 années-là, je n'ai plus envie de vivre dans 19 mètres carrés. Mais c'est surtout que je sais qu'aujourd'hui, ce n'est même pas 19 mètres carrés auquel je peux prétendre dans Paris, c'est 14 mètres carrés, et encore un peu plus loin, un peu plus en périphérie que ce que j'avais. Et là, je me dis, mais c'est pas possible. J'ai 30 ans. Est-ce que vraiment je vais aller vivre dans 15 mètres carrés au bord de Paris? Enfin, quelle est l'évolution de ma vie? C'est le seul espace auquel je peux prétendre avec tout ce que j'ai fait dans ma vie. C'est ça. Et par nécessité matérielle se posent certaines questions comme est-ce que je vais habiter avec mon copain? Parce que finalement, aujourd'hui, les gens que je connais qui s'en sortent à peu près, c'est ceux qui vivent en couple. Et mon copain, lui, il n'est pas du tout dans la même dynamique que moi. Et en gros, il ne sent pas qu'il veut faire ça. Aussi d'ailleurs, parce qu'en fait, ça fait une pression supplémentaire, parce que comme on voit à quel point c'est difficile de déménager, on s'engage moins sur quelque chose où on se dit « Bon, tentons, allons-y, c'est peut-être un peu risqué, mais si ça ne marche pas, ça ne marche pas. » Et puis, il y en a un de nous qui s'en va et puis on déménage. On se dit « Ouh là là, mais si ça ne marche pas, ça va être une galère monumentale. Comment on va faire? Ni lui ni moi ne pourrons payer le loyer d'un T2. » Bon, donc en fait, on ne le fait pas. Et là, je me dis « Je cherche une coloc. » Et j'ai pas du tout aimé. Parce qu'en fait, on vient faire la visite, c'est pas pour voir si on a envie d'habiter dans l'appart, c'est pour voir si les colocs vont avoir envie que nous, on habite dans l'appart, quoi. Mais j'ai fait l'inverse à un moment donné. Donc j'ai mis une annonce qui était même pas du tout sûre, mais peut-être que j'allais récupérer un appart d'amis qui s'en allaient. Et là, je me suis dit, il faut que je trouve quelqu'un. Mais je me suis rendu compte que c'était fou. Alors que j'avais pas mis de photos, j'avais rien mis, j'avais juste dit que je cherchais potentiellement quelqu'un pour faire une coloc avec moi, j'ai reçu des messages, mais tout le temps, de gens qui me disaient « T'as un appart parce que je cherche un appart ?» J'étais « Ah non, je cherche aussi un appart, mais je cherche quelqu'un pour chercher un appart avec moi. » Et j'ai fait des rencontres comme ça. J'ai fait des sortes de dates de colocs potentiels où j'ai rencontré des gens pour voir si on allait chercher un appart ensemble ou pas. Donc j'étais tout le temps en train de chercher un appartement. Donc en fait, on met des alertes. Il y a plein d'applications d'alertes d'appart. Je vais voir une agente immobilière et je commence à arriver un petit peu à parler avec elle parce que je lui dis... Ça doit être compliqué pour vous aussi, etc. Quoi, elle me dit, oh là là là, vous n'imaginez même pas. Moi, la location, je ne veux plus en faire. De toute façon, regardez, là, ce matin, on a mis un bien en location dans Paris 20e. Elle me montre sa boîte mail, envahie. Elle me dit, j'ai reçu 86 ou 90, un chiffre comme ça, en une demi-journée. On rentre dans un petit système où c'est struggle for life. Non, mais c'est... On sait qu'il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Donc, on sait qu'il va falloir se battre contre d'autres gens. Être les premiers, avec le meilleur dossier, le meilleur machin. C'est pas possible. On se dit bien, il faut passer par autre chose. Donc, moi, j'ai revu un petit peu mes critères à la baisse. Et notamment en termes de localisation. Je me suis rendu compte que les tarifs dans mon quartier étaient devenus vraiment beaucoup trop hauts pour moi. et que Paris, c'est plus pour moi. Être en CDI et gagner 3 fois le loyer. Quand on connaît les loyers parisiens, c'est plus du tout la majorité des personnes, en fait. Et moi, clairement, en tant qu'intermittente, je ne suis pas assez rentable à ce système pour prétendre avoir une place de choix. Je fais partie de la marge. Et en fait, c'est très concret. Faire partie de la marge, c'est aussi être relégué à la marge du centre névralgique de la ville, à tel point qu'on se demande qui habite vraiment dans les centres, enfin, à part du Airbnb. En fait, c'est toujours cette sensation d'exclusion. Alors évidemment, il y a des exclusions bien pires. Là, je suis pas du tout en train de comparer ma situation à vraiment 1 000 milliards de situations bien pires. Mais moi, ce que ça m'a renvoyé, c'est j'ai eu 30 ans, j'ai dû déménager de mon appartement et me retrouver chez mes parents à chercher un logement et en me disant « Oh là là, oh là là, j'ai pas assez d'argent aujourd'hui pour vivre là où je voudrais vivre. Pourquoi c'est pas possible d'avoir sa vie, son espace, son indépendance ? Pourquoi on me demande un truc impossible ?» Donc je cherche, je ne trouve pas. Et je finis par retourner dans mon agence, l'agence juste en face de chez mes parents au Pré-Saint-Gervais. Donc je suis allée les voir. Ils m'avaient loué un bien il y a 6 ans où j'étais étudiante. C'était mon vrai dossier d'étudiant. Et je me pose et je dis, je cherche un appartement. Je leur dis, j'ai un dossier d'étudiant. Et elle me regarde, elle met un petit silence et elle dit, ne touchez à rien, c'est parfait, c'est qui votre garant ? Donc la conversation s'arrêtait là. Personne n'était dupe du fait que les gens font des faux dossiers. Et un jour, j'y retourne et là, elle me dit « Ah, j'ai un préavis de locataire. » Mais c'est au Pré-Saint-Gervais. Et moi, je dis « Ah, non !» Parce que le Pré-Saint-Gervais en soi, c'est très bien. C'est juste que le Pré-Saint-Gervais, c'est ma ville natale. Non, c'est ma ville d'enfance. C'est la ville dans laquelle mes parents vivent. C'est pas une ville qui, pour moi, s'associe à indépendance, âge adulte, renouveau, changement, évolution. Enfin, rien de tout ça. Pour moi, c'est retour au bercail. Et en plus, il y a quelque chose quand même où je me dis, ah là là, j'ai vécu à l'étranger, j'ai vécu à Paris. Et finalement, on retourne de là d'où on vient. C'est ça, en fait.
Selon les professionnels de l'immobilier, à Paris, le nombre d'annonces à la location s'est effondré de 50% en 2024. En Ile-de-France et dans toutes les grandes villes, la tension locative est au plus haut. À Paris et en petite couronne, il y a un appartement pour 7 candidats. La règle, c'est la rapidité et la stratégie. Un jour, alors que j'étais presque sûr d'obtenir l'appartement que je convoitais, je suis allé jusqu'à acheter une caisse de champagne pour l'agent immobilier. Je n'étais pas très fier de mon geste, mais j'ai eu l'appartement.
C'est un logement que j'ai acquis il y a 15 jours à peu près.
En location ?
En location, ouais.
Et surtout, il faut toujours se dépêcher, quitte à louer n'importe quoi.
C'est un bail professionnel, hein, parce que ça fait moins de 9 mètres carrés.
Là, c'est Delphine. Elle me fait visiter l'appartement qu'elle vient de louer.
Je pense que c'est un des baraques qui a été amélioré avec les années, mais ça date des années 80, quoi. Ça date de 40 ans, c'est...
Quelques jours plus tôt, le propriétaire a organisé une visite collective au pas de charge. Delphine vit dans un mobilhome situé en Seine-et-Marne. Et comme elle vient de trouver un boulot à Paris, elle n'a pas le choix. Elle prend ce qui se présente. Mais alors qu'elle a signé le contrat de location, elle découvre l'ampleur de la catastrophe. C'est là qu'elle comprend pourquoi le propriétaire n'a pas été très regardant sur le dossier de candidature.
Et là, je vois qu'il y a une bouteille d'eau suspendue au radiateur. Quand on ouvre ici pour avoir le chauffage collectif, on entend un goutte à goutte et surtout on voit en mettant... la lumière.
Ah oui, c'est complètement pourri, d'accord.
Voilà.
En fait, si on n'est pas là, pour vider la bouteille, on ne peut pas faire fonctionner le chauffage.
Oui.
Il faut être consacré à la bouteille quand même.
Ah bah c'est comme un feu de cheminée. Exactement comme un feu de cheminée, il faut être là. Il faut être là, alors pas pour alimenter, mais pour vider justement la bouteille d'eau.
Parce qu'en plus, elle se... Elle se remplit
très vite, à peu près 1,5 litre à l'heure. Voilà. En retirant le frigo, je vois aussi que derrière, j'ai accès sur l'extérieur. Il y a deux trous. Je remarque une seringue anti-cafard. Effectivement, les poubelles sont juste en face. Quand on ferme, la fenêtre ne ferme pas, tout simplement. N'importe qui peut rentrer. Et après, je termine par le petit bloc sanitaire. Et là, c'est l'état de crasse, quoi. Complètement moisi. Il y a des poils. Les toilettes, c'est une infection. C'est une infection. Donc, c'est très, très rude, ça. Bon, je le suis aussi. Ça m'a pas affolé, mais c'est l'accumulation des points défaillants qui m'ont vraiment amené à dire, là, c'est pas possible. C'est ne pas se respecter non plus, quoi.
Combien ça coûte un logement comme ça ?
450 euros par mois, moins payable d'avance. Ça fait une petite quarantaine d'années que je fais des locations. Je déménage assez régulièrement, on va dire. Je suis tombé sur d'autres marchands de sommeil aussi. Et non, là, c'est le pire. Je me dis, mais j'essaye de comprendre qu'est-ce qui m'a fait prendre aussi ce logement comme ça. J'étais en Bretagne pendant plus de 10 ans. Là-bas, on est confronté aussi à d'autres soucis, hein, la hausse, hein, des loyers et l'humidité. L'humidité, c'est un véritable fléau en bord de mer, comme ça. Hein. On a mis des convecteurs électriques, mais c'est pas du tout adapté. Pour vous donner un ordre d'idée, au départ, on sait pas, hein, je dis bon, on va quand même aller à l'économie, je mets un 16 degrés. 16 degrés, j'en ai eu pour 400 euros. Je dis, non. On prend le parti, par exemple, de ne pas se chauffer. Ça donne du 13 degrés, c'est pas... Après, les températures descendent jamais trop, trop bas. Vers là-bas, c'est des adaptations, voilà. Donc, ouais. Ouais, c'est fatigant d'être pauvre, au bout d'un moment. Aujourd'hui, j'ai 600 euros de chômage. Et j'ai de l'argent de côté, voilà, pour pallier. J'ai fait l'acquisition d'un mobilhome et qui se trouve à 25 km de Paris. Donc ça, j'en suis plutôt contente, parce que je l'ai eu à un prix, on va dire, abordable, à 6 000 euros. Il fait partie d'un club caravaning, c'est un terrain associatif, mais qui est fermé l'hiver. Donc l'hiver, j'ai besoin de trouver un autre logement, et mes activités professionnelles m'ont amené à Paris. Et c'est là qu'il faut que je sois aujourd'hui et non dans les transports à tout va. Donc c'est pour ça que j'ai cherché activement un petit pied-à-terre abordable. Et c'est vrai qu'un logement à Paris même, ça permet aussi d'avoir des petits boulots ponctuels. Je suis modèle dans les ateliers de sculpture, peinture. Il faut avoir un logement central. Parce qu'autrement, c'est du 6-7 heures de transport par jour, donc ça devient un petit peu délirant quand même. Donc j'ai rendez-vous avec le propriétaire dans quelques minutes. On a convenu d'un rendez-vous pour voir justement l'état du logement, pour qu'il y ait une petite confrontation. Mon but, c'est évidemment de rompre tout ça et de récupérer l'argent que j'ai déjà versé. J'aurais du mal à récupérer mes 2 mois de loyer, ce sera pas facile comme ça, maman. Mais je trouve que c'est tellement un abus qu'il y a... Ouais, là, je me... Faut être honnête, quoi. Bonjour. Voilà, donc... vous avez tout reçu.
Ah, oui, vous commencez aussi à me...
Ouais.
Regardez quoi ?
Mais quoi ? Allez,
oui, ça, on les
mettez-moi le chauffage.
Ok.
Il y a une bouteille.
Il y a une fuite.
En une heure, même pas, ça se remplit.
Ok.
Il avait froid il y a 15 jours.
Le personne auparavant, il ne le mettait même pas. Il m'avait dit, je voulais le faire réparer, que les tuyaux suffisaient, même trop chaud, ouvrez les fenêtres. Alors, Arrêtez un petit peu. Vous êtes au rez-de-chaussée quand même. Vous n'êtes pas. Vous mettez un thermomètre, vous verrez que c'est la température.
Justement, je suis au rez-de-chaussée.
Oui,
hein.
oui.
Et à rez-de-chaussée, on sait que ça a l'humidité.
C'est un local professionnel. Encore une fois, c'est pas un local d'habitation. Mmh. Et même pour un local d'habitation, il peut arriver que je n'ai pas regardé sous l'ordinateur ce qu'il y avait.
Moi, je devrais vous remercier en plus.
Oui, parce que si vous voyez comme ça, je regrette, il y en a d'autres qui le voulaient. Non, si vous ne voulez plus, vous, on peut s'arranger, moi je retrouve quelqu'un d'autre tout de suite.
Et pas de souci. Vous préférez pas me rembourser déjà ce que je vous ai donné, qu'on en reste là?
Je vais pas tout vous rembourser, moi, vous me occupez pendant combien de temps là?
Pardon?
L'occupation. Ben oui. Donc je regrette, vous êtes responsable depuis cette date-là. Voilà. Donc moi je vous rembourse là maintenant le prorata qui restera à la fin, et puis c'est tout, on n'en parle plus. Et vous en tirez bien, parce que normalement, les préavis, hein, vous avez regardé combien de mois vous avez donné de préavis. Hein. Donc là, je ne vous fais même pas appliquer la clause du contrat de préavis. Donc vous en tirez bien. Allez, bonne journée.
Quand je quitte Delphine, je fais quelques recherches sur ce propriétaire. Je trouve un document intéressant. Un arrêté préfectoral qui lui ordonne de cesser la mise en location d'un local de 5 mètres carrés, humide, et non isolé.
C'est assez rare que les préfets, en tout cas, se démènent pour ce genre de dossier. Ça fait 5-6 ans que je suis avocat, c'est la troisième fois que je vois ça.
Je soumets cet arrêté à un avocat spécialiste du logement.
Vu la réaction du préfet, ça veut dire qu'il y avait vraiment un risque, un danger et une personne extrêmement vulnérable dans les locaux.
Enfin, une bonne nouvelle pour les propriétaires bailleurs. Des petits malins ont trouvé l'astuce pour enfin échapper à la fameuse loi du 6 juillet 1989. Donc plus de limite de dépôt de garantie, plus d'encadrement des loyers, plus de durée minimale du bail, tout ça c'est fini.
Et le Alors pire, ce monsieur maintenant ne loue plus sous forme de bail traditionnel, mais le local que moi j'ai visité avec sa locataire, c'était loué comme un bureau.
Oui, je vous rappelle le champ d'application de la loi de 89. L'obligation de décence ne s'applique qu'aux baux d'habitation. Donc, dès lors que vous allez être dans un bureau, vous n'aurez plus ces caractéristiques de décence de la loi pour les locaux d'habitation. Il n'empêche que si vous avez une fenêtre qui ne ferme pas, ça reste quand même une obligation du bailleur de fournir quand même le clos et le couvert. L'appartement, il n'est pas clos, il n'est pas couvert. Ça crée un vrai problème.
Des appartements comme celui que Delphine a loué, c'est-à-dire des habitats indignes, il y en a 600 000 en France. Et les familles contraintes de les habiter sont de plus en plus nombreuses. Pour comprendre, il faut regarder la question du logement comme un jeu de domino. Il y en a un qui tombe, et tout s'effondre en chaîne. Et là, le domino qui provoque la crise, c'est l'augmentation des taux d'intérêt en juillet 2022. En résumé, il est plus difficile d'emprunter pour acheter, alors il n'y a plus de mobilité résidentielle et la conséquence, c'est qu'il n'y a plus rien à louer.
Bonjour.
Tout au bout de cette chaîne, il y a les sans-abri, comme Estelle, que vous avez entendue dans le premier épisode de cette série. Avec son mari, Alexandre, et leur petite fille de 15 mois, ils sont arrivés à Paris depuis un an. Pendant ce temps, ils ont vécu ici et là, dans une quarantaine d'hôtels, dans des squats et parfois sous le pont de Bercy. Quand je les ai rencontrés pour la première fois, il y a un mois, ils étaient pleins d'espoir, mais ça n'allait pas durer. Aujourd'hui, ils commencent à désespérer. Heureusement, quelques auditeurs se sont alarmés de leur situation et ont proposé de l'aide, mais rien n'est encore concret. Le jour où je les retrouve, ils sont au Resto du Cœur, dans le 12e arrondissement de Paris.
Puisqu'elle a plus d'un an. Hein.
Bah, elle mange avec les petits morceaux, il n'y a pas de souci.
Alors voilà.
Hein? D'accord, merci bien.
Je vous en prie, bonne journée madame.
Au revoir madame.
Au revoir.
Dans le caddie, j'ai des lentilles nature, une sardine, un blé dit chef dès 18 mois pour le bébé.
Vous avez combien de temps de route maintenant?
Ça dépend où on nous a logés. Comme là, je suis dans le 95, disons environ une heure. Oui, disons environ une heure. C'est pas si facile que ça, hein. Mais bon, on fait avec.
Depuis qu'Emmanuel Macron a promis qu'il n'y aurait plus personne dans la rue avant fin 2017, le nombre de SDF a quasiment doublé. Selon la Fondation Abbé Pierre, ils sont aujourd'hui 330 000 en France.
Comment vous vous sentez, vous, Estelle?
Bon, dans l'attente, dans l'incertitude, on est incertain. Je vais accrocher à mon téléphone. Alex qui cherche toujours un boulot. Et tout est encore en suspens, quoi. Donc, voilà. Si vous n'avez pas où dormir, vous ne pouvez pas vous projeter. Vous ne pouvez pas vous projeter. Vous pouvez... Ce que moi je fais pour changer un peu d'idée, c'est de faire des cours d'anglais en ligne, lire des articles en ligne, tout ce qui a trait au logement, tout ce qui a trait à l'immigration. Moi, je me dis que ce sera bénéfique pour moi. Bon, peut-être comme les Jeux Olympiques arrivent aussi, peut-être je peux avoir un peu de chance et trouver un travail. Peut-être un restaurant, bien à l'accueil. Et le simple fait que je m'exprime en anglais sera un atout. Pour moi, l'horizon est sombre. C'est plus que petit. Concernant le logement, l'horizon est sombre. Malgré les efforts, je ne dis pas que l'État ne fait pas d'efforts, mais malgré les différents efforts, pour moi, c'est sombre. Allez, let's go. Au revoir. Say goodbye.
Bye bye.
Say goodbye.
C'était La loi du marché, le deuxième épisode de la série de Rémi Dibovski qui doit intituler Un temps à coucher dehors, réalisé par Somaya Dabesh. Merci à Delphine, à Lara, à Estelle, à Valentin Simonet. L'attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Valentin Rémy. Et notre stagiaire, c'est Nour Mohamedi.
Bella ci dormi sui cuscini, caiuca for, caiuca for. Bella ci dormi sui cuscini, caiuca for. E meno sospiri, e meno sospiri, fino a morire. Pozzate bella, e fammi trasire. E mi non sospiri fino a morire, alzati bella e fammi trascinare. Caiuca for, caiuca for. Bella ci dormi stida di cor. Caiuca for, e ardu d'amore, e ardu d'amore. Fino a morire, ozzate bella e fammi trasire. Ardu d'amore, fino a morire. Ozzate bella e fammi trasire. Bella ci dormi sulla mamace, caiuca for, caiuca for. Bella ci dormi sulla mamace, caiuca for, e non mi do pace, e non mi do pace. Fino a morire, ozzate bella e fammi trasire, e non mi do pace. Fino a morire, ozzate bella e fammi trasire. Thank you. dormire da sti mure, caio cafor, caio cafor. Bella ci dormire da sti mure, caio cafor, senza paura, e senza paura, fino a morire. Zatti bella e va a metrasire, senza paura vino a morire, oh zatti bella.
Invente le manga audio. Épique, comique, parfois gore et même
kawaii.
Doruido vous emmène dans une aventure sonore pleine de monstres et de magie. Aiden, un orphelin de 14 ans, voit son existence bouleversée lorsqu'une araignée géante attaque son village.
C'est l'histoire d'un garçon qui se transforme en monstre et qui détruit tout son village. Ça te dit un truc ?
Doruido, une série originale écrite par Ellie Oliven et réalisée par Christophe Hoquet.
J'ai envie de voyager.
À dévorer sur franceculture.fr et l'appli Radio France.